Combattante, combative, histoire, politique, intime, universelle. Des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Une série radiophonique avec la classe PEM du collège Victor Hugo.
C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'avortement en France à travers une interview de Simone Veil et Annie Ernaux pour célébrer les 30 ans de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. En effet, l'avortement en France n'est légal que depuis le 17 janvier 1975. Avant cette loi, surnommée la loi Veil, cet acte était illégal. Les femmes et personnes impliquées étaient sanctionnées par la loi. Annie Ernaux cite ainsi le Larousse universel, édition 1948, page 29 de l'événement.
Docteurs sont punis de prison et d'amende. 1. L'auteur de manœuvres abortives.
2. Les médecins, sages-femmes, pharmaciens est coupable d'avoir indiqué ou favorisé ces manœuvres.
3. La femme qui s'est fait avorter elle-même ou qui a consenti.
4. La provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle.
Cette légalisation a pu aboutir grâce à des figures emblématiques, comme celle par exemple de Simone Veil et Annie Ernaux, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui.
Bonjour mesdames. Cette première question s'adresse à Madame Simone Veil. Comment vous sentiez-vous lorsque vous avez fait votre discours devant l'Assemblée le 26 novembre 1974 en tant que ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville ?
Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. J'étais très confiante à l'idée de passer devant cette Assemblée uniquement composée d'hommes, mais également fière de pouvoir parler de la situation dans laquelle se trouvaient les femmes à cette époque. J'avais également espoir que ce discours réussisse à convaincre l'Assemblée. J'avais pleinement conscience de l'enjeu politique de ce moment. Cependant, quand je suis montée sur l'estrade pour déclamer ce discours, j'ai été huée par ces hommes qui n'avaient même pas conscience de la souffrance et du stress enduré par ces femmes qui ont recours à l'avortement clandestin.
La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer, et leur apporter un appui et une protection.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez réussi à légaliser l'avortement ?
J'ai tout d'abord été soulagée, car le droit à l'avortement est une chose pour laquelle je me suis battue pendant des années. J'ai également été heureuse d'avoir pu libérer toutes ces femmes de l'avortement clandestin et de ses risques. Entre 30 000 et 60 000 femmes sont mortes suite à un avortement clandestin entre 1940 et 1960. De plus, en tant que représentante des femmes et des Français en général, je me devais de mener ce combat.
Madame Annie Ernaux, comment avez-vous accueilli cette légalisation ?
Je vous remercie pour cette invitation. Quand la loi Veil est passée, j'avais 35 ans et j'avais avorté clandestinement quelques années auparavant. J'ai donc été très émue d'apprendre que cette loi avait été acceptée par les dirigeants de notre pays. J'ai pensé à toutes ces femmes qui avaient souffert, voire risqué leur vie, et je suis admirative de toutes ces personnalités qui ont combattu pour légaliser l'avortement.
Madame Ernaux, a-t-il été dur pour vous d'écrire sur votre avortement clandestin ? Car on le rappelle, vous avez écrit un livre intitulé « L'événement » qui revient sur cette période de votre vie.
Oui, en effet, cela a été dur, car avant l'avortement était un sujet tabou et personne n'en parlait contrairement à aujourd'hui. C'était illégal et dangereux, et l'avortement a bouleversé ma vie et le fait que je tombe enceinte aussitôt. Je n'étais pas prête à être mère et à abandonner mes études. J'ai eu besoin de courage et j'ai réussi. J'ai vécu dans la peur et le besoin d'être écoutée. C'est d'ailleurs ce que j'exprime dans l'événement. Je parle de ce besoin d'écrire.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer ?
Non, malheureusement, on n'a jamais eu cette occasion. Cela a donc été un plaisir de vous rencontrer et d'échanger sur ce sujet, étant donné que vous avez eu une grande influence sur moi et beaucoup de femmes.
Non, effectivement, nous n'avions jamais eu l'occasion de discuter. J'avais déjà lu quelques-unes de vos œuvres et ce fut un plaisir de converser avec une écrivaine de talent.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à Simone Veil et à Annie Ernaux d'être venues nous rendre visite. Votre combat a été bénéfique pour de nombreuses femmes. Votre exemple est important et nous donne du courage pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent reprendre de nouveaux combats pour faire avancer les droits des femmes dans le monde.
C'était un épisode réalisé par Noé, Lison, Ajar et Ella.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur JTFM. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le parcours incroyable de Rosa Parks.
Rosa Parks, née en 1913 en Alabama, était une militante américaine reconnue pour son rôle crucial dans les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. Son nom est à jamais associé au refus de céder son siège dans un autobus public à Montgomery. Rosa a grandi dans une société marquée par la ségrégation raciale où la discrimination était omniprésente. Ainsi, Noirs et Blancs ne pouvaient pas partager les mêmes droits contre les injustices raciales et les brutalités policières. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks monte à bord d'un autobus de Montgomery après une longue journée de travail. Elle prend place dans la section réservée aux Noirs, mais lorsque des passagers blancs montent à bord et que le conducteur demande aux personnes noires de céder leur siège, Rosa Parks refuse. Son acte de désobéissance civile conduit à son arrestation, mais surtout, il inspire une mobilisation significative. Le boycott des bus commence le 5 décembre 1955, dirigé par le jeune pasteur Martin Luther King. Ce boycott, qui dure 381 jours, symbolise le début d'une lutte massive contre la ségrégation dans les transports publics. La Cour suprême des États-Unis, en décembre 1956, déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les autobus, mettant fin au boycott. Après ces événements, Rosa Parks continue à militer pour les droits civiques. Elle reçoit de nombreux honneurs et distinctions, dont la médaille présidentielle de la liberté. Elle décède le 24 octobre 2005.
Pour compléter cette émission, nous avons une occasion extraordinaire de nous plonger dans l'histoire d'un ancien élève du lycée de Little Rock, dont l'histoire a été relatée par Alice Hershey dans Sweet 16. Nous sommes ravis de recevoir ici aujourd'hui Conrad Bishop, un des 9 Afro-Américains intégrés à Little Rock. Alors installez-vous confortablement car nous allons voyager dans le temps pour partager son expérience. Commençons par le début. Vous pouvez nous raconter brièvement votre expérience en tant qu'élève au lycée de Little Rock ?
Certainement. Nous étions les 9 premiers à avoir été sélectionnés dans ce lycée de centre-ville. J'ai fréquenté le lycée de Little Rock dans les années 1950. C'était des années difficiles, marquées par de nombreuses insultes, moqueries, violences physiques et verbales.
Comment avez-vous été accueilli la première fois au lycée ?
On n'a même pas pu rentrer dans le lycée. Quelques semaines plus tard, on a fini par pouvoir aller en cours, encadré par des soldats pour éviter d'être lynchés.
Et finalement, avez-vous réussi à vous faire des amis ?
Non, nous avons été continuellement persécutés par les Blancs tout au long de l'année. Par exemple, Molly a reçu de l'encre sur la tête, Madeleine a été poussée dans les escaliers, ce qui l'a conduite à l'hôpital.
Quels souvenirs gardez-vous de votre passage au lycée de Little Rock ?
Même si nous étions fiers d'avoir été sélectionnés, cette expérience a été très dure à vivre. Je sais que les filles ont beaucoup pleuré et que même si j'ai donné l'impression de ne rien ressentir, j'ai aussi beaucoup souffert.
C'est certainement une période clé de l'histoire américaine. Comment pensez-vous que le lycée de Little Rock a influencé votre vision du monde et votre engagement social ?
Le lycée de Little Rock était au cœur des événements qui ont redéfini la lutte pour l'égalité des droits. Ça a eu un impact profond sur ma compréhension de l'injustice et a alimenté mon engagement à lutter pour le changement social. Ces années ont façonné ma perspective sur la vie et ont contribué à la personne que je suis.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec les élèves actuels de lycée de Little Rock ?
Absolument. Ce que je voulais dire, c'est que chaque génération a le pouvoir de faire avancer les choses. Le lycée de Little Rock a été le théâtre de changements significatifs, mais la lutte pour l'égalité continue. Soyez fiers de votre histoire, apprenez d'elle et continuez à œuvrer pour un monde plus juste et équitable.
Parole puissante, merci infiniment d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. Nous sommes honorés d'avoir eu un aperçu de votre voyage à travers le lycée de Little Rock.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici.
C'était un épisode réalisé par David, Noam et Fadi. Fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. C'était une production issue du laboratoire sonore de Jet. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.